Vous êtes sur RTL.
Sur RTL.
Je rappelle donc que le professeur Didier Raoult fait l'objet de poursuites devant l'ordre des médecins qui lui reprochent plusieurs entorses au code de déontologie. Violation de la confraternité, information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même charlatanisme. La procédure fait suite à une série de signalements et d'une plainte adressée depuis le début de la crise du coronavirus à l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Et ça fait fortement réagir nos auditeurs. Sébastien, qui est enseignant SVT à Auxerre. Rebonjour.
Rebonjour. Donc, comme je vous le disais, je trouve ça premièrement pas surprenant, mais deuxièmement relativement sain, dans le sens où on a vécu une phase compliquée, inédite, d'accord, qu'on continue encore à vivre à l'heure actuelle, et au cours de laquelle il s'est passé des choses pour le monde scientifique, assez frustrantes, dans le sens où certaines personnes, le professeur Raoult, mais d'autres aussi, ont pris la parole pour avancer des choses, alors que des études étaient en cours, profitant d'une fenêtre médiatique largement ouverte, et d'un besoin de réponse de la population, et ne respectant pas du tout le temps de l'analyse scientifique et surtout le temps de la recherche et de la vérification des arguments que l'on avance. J'étais intervenu déjà sur votre antenne pour dire, le problème par rapport au professeur Raoult, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas s'il avait tort ou raison concernant l'hydroxychloroquine. Parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place des études rigoureuses, précises, qui permettent d'affirmer que cette prise de parole était justifiée ou non. Mais là, le fait qu'on se penche sur est-ce qu'il a eu raison de prendre la parole et d'induire un clivage au niveau de la population, parce que c'est exactement ça, il y a vraiment des populations qui sont pro et anti Raoult, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, et est-ce que c'est à un médecin de faire ceci?
Alors Jean-Baptiste est médecin et il habite Marseille et ça va être intéressant de questionner Jean-Baptiste et cet ordre des médecins, puisque c'est l'ordre des médecins qui le poursuit. Quelle est la liberté au fond d'un médecin, Jean-Baptiste? Par exemple, j'entends dire il peut prescrire ce qu'il veut pour soigner le malade. Est-ce que c'est une réalité?
Bonjour.
Bonjour.
Pascal, bonjour à tous. Logiquement, oui, on a une liberté de prescription qui est assez large en respectant les référentiels, et on a la possibilité de prescrire hors autorisation de mise sur le marché pour telle ou telle indication. Mais chacun est responsable de ses prescriptions.
Donc a priori, vous ne pouvez pas être poursuivi pour les prescriptions que vous faites sur le plan pénal, en tout cas.
Sauf à faire n'importe quoi. Évidemment, il y a des prescriptions que vous ne pouvez pas injecter 3 grammes de potassium à quelqu'un parce que vous le tuez instantanément. Mais
par exemple, je lis exposition à un risque injustifié. C'est quoi? Qu'est-ce que l'ordre des médecins entend par cette phrase?
Il faudra peut-être qu'il explique et qu'il argumente, parce que sur les études qui existent, en tout cas sur les... Enfin, je parle pas de l'azithromycine, parce que ça se donne couramment, tout le monde en a pris, c'est pas un problème. Et quant au plaquénil, on a assez de recul, et on avait assez de recul de toute façon, même en dehors de cette crise, pour savoir que le risque d'effet indésirable était quasiment inexistant, quoi, nul.
Vous pouvez nous expliquer, dans chaque département, il y a un ordre des médecins? Comment est organisé l'ordre des médecins?
De façon hiérarchique, de façon pyramidale plutôt. Il y a un ordre départemental, un conseil de l'ordre départemental, régional il me semble, et après au niveau national. Donc, il y a un président.
Parce que là, la procédure, nous sommes d'accord que c'est une plainte de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
Oui, ils instruisent la plainte, il me semble. Après, moi, je suis pas juriste, et c'est une procédure ordinale. Donc, on n'est pas au pénal et on n'est pas au civil non plus. Donc, c'est vraiment.
Et alors, qu'est-ce qu'ils risquent?
Vous risquez un avertissement, une suspension temporaire, une relation. Mais après, sur le plan juridique, à mon avis, il risque pas grand-chose, parce qu'il va falloir démontrer que ce qui lui est reproché est réel, quoi.
Et alors, comment vous interprétez cette plainte?
Moi, c'est ce que je disais au monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, qui m'a appelé pour intervenir. Et moi, c'est plus sur le fond qu'il faut raisonner dans cette crise, parce qu'on tire vers la folie collective, réellement. Enfin, moi, pour moi, une hystérie collective. Moi, il me semble que il y a une telle caisse de résonance. En gros, c'est la caisse de résonance médiatico-politique qui s'est complètement substituée au débat médical et scientifique. Et ça, c'est amplifié par les nouveaux les nouvelles façons de communiquer, tout simplement, les réseaux sociaux, les médias qui tournent 24 sur 24 et ce genre de choses. Il y a 15 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu ce genre de crise collective et de crise médiatique.
Je pense que vous n'avez pas tort. Je pense que les réseaux sociaux sont en train de le découvrir. Ils ne sont pas que des témoins, ils sont parfois acteurs de nos sociétés. On va marquer une première pause, Jean-Baptiste. Et on va se retrouver dans quelques instants. Mais c'est vrai, et c'est intéressant ce que disait Jean-Baptiste, c'est que maintenant, si les réseaux sociaux n'existaient pas, il y aurait plein de déclarations, d'actions, pourquoi pas, qui ne sont faites que pour être pris médiatiquement. Et ça, c'est une perversion ou une perversité forcément du système. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Qui veut la peau de Didier Raoult ? C'est en tout cas la défense de son avocat, maître Fabrice Divizio. Bonjour, monsieur Divizio.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat donc de Didier Raoult. Qui veut la peau de Didier Raoult ?
Oh, je pense qu'effectivement, une tranche marginale de la profession médicale souhaite régler les comptes avec le professeur Raoult, c'est tout. Nous sommes sur ce que j'appelle effectivement cette frange radicale de la profession médicale, minoritaire, qui souhaite...
Ah oui, mais voilà, c'est l'ordre des médecins, c'est pas une franche radicale. L'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, hein, c'est bien cela.
Oui, mais l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, effectivement, vous savez, c'est le problème de toutes les majorités. C'est-à-dire qu'ils ont voté à la majorité le fait de poursuivre Didier Raoult, mais l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, finalement, a cédé à la politique, j'ai envie de dire, de la terreur, mais c'est pas grave. Si vous voulez, il faut pas faire de cette histoire ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune difficulté à l'idée que l'ordre dépose plainte. Au contraire, je pense qu'il est sain et il est bon que Didier Raoult puisse laver son honneur devant les instances judiciaires. Maintenant, voilà. Et que dans cette histoire, moi, je n'ai aucune inquiétude sur ce qui va se passer.
Donc, c'est une plainte qui est déposée devant quel tribunal ?
Devant la chambre disciplinaire de l'ordre.
Et quelles sont les conséquences pour Didier Raoult ?
Les conséquences, effectivement, c'est qu'il va devoir s'expliquer. Ce qui est en jeu, c'est son droit d'exercer la médecine.
L'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, c'est combien de personnes ? Parce qu'on découvre évidemment cet ordre des médecins départemental qu'on ne connaît pas forcément.
C'est une vingtaine de personnes. C'est pour ça que, si vous voulez, quand je parle de frange minoritaire, le conseil régional...
Oui, mais ils sont représentatifs. C'est un ordre de médecins qui a élu, j'imagine, comme un ordre classique et qui a pris une position...
Mais si vous voulez, moi mais regardez, le conseil régional, par exemple, de l'ordre, parce qu'il y a plusieurs niveaux, le conseil régional de l'ordre avait manifesté, quant à lui, son soutien au professeur Raoult. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que tout ça n'est jamais qu'une guerre d'égo et de personnes, finalement, à la fin de la fin. Et moi, ce que je regrette dans cette affaire, si vous voulez, c'est que tout le monde m'avait interrogé, quand mes clients avaient déposé des plaintes contre les ministres, de savoir si c'était le bon moment. Tout le monde s'est offusqué, déchiré les vêtements pour savoir si c'était le bon moment. Mais là, que des médecins se déchirent entre eux, en pleine crise, et alors qu'on est à 3 semaines de Noël, que les magasins sont fermés, que les Français souffrent et que les morts s'entassent, ça pose de problème à personne.
D'accord. Alors on lui reproche la violation de la confraternité, ce qui n'est pas tout à fait faux chez Didier Raoult, qui n'a pas toujours été tendre avec ses confrères, ça c'est un fait. Information erronée donnée au public, c'est parfois arrivé, mais il n'est pas le seul. C'est vrai que quand il a dit, je crois au départ c'est une grippette, où il n'y aura pas de deuxième vague et de ça, on peut objectivement lui reprocher. Mais je le répète, il n'est pas le seul. Et alors charlatanisme, là j'étais plus étonné de ce terme-là. Je ne sais pas si vous avez des précisions à nous donner.
Charlatanisme, c'est pour la prescription de son protocole.
Ah d'accord. Donc l'hydroxychloroquine qui est donnée parfois dans des pays africains, et on a effectivement reçu et écouté nous des professeurs et des médecins qui n'ont pas tous le même avis là-dessus. On est bien incapable de savoir ce qu'il faut penser de l'hydroxychloroquine.
Absolument.
Mais effectivement, donc on lui reproche d'avoir prescrit l'hydroxychloroquine.
On lui reproche d'avoir prescrit l'hydroxychloroquine. C'est incontestable. Avec un truc assez marrant d'ailleurs. C'est que certains médecins qui ont signalé Raoult au Conseil disent, vous avez vu, en France, c'est pas tellement utilisé, mais en Afrique, c'est massivement utilisé.
Oui, tout à fait,
Mais attendez, mais ils en tirent la conséquence en disant, vous avez vu les ravages que ça a fait ? Donc les Africains sont des imbéciles, Et c'est à cause de Raoul qui prescrit des oxychloroquines. Sympa pour les médecins africains. Bon. Et c'est les mêmes qui viennent parler de confraternité.
On rappelle quand même devant quel tribunal Didier Raoul passera et sera...
Chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins, qui est composée donc de médecins, et présidée par un juge administratif, à charge d'appel devant la chambre disciplinaire nationale, qui regroupe des médecins de toute la France.
Et ça, c'est quand? Ça se passera quand?
Quatre mois.
Parce que ça va être instruit, j'imagine?
Oui, enfin, ça va être instruit. Si vous voulez, c'est un peu comme une procédure administrative, c'est-à-dire que vous avez des échanges de mémoire, et à la fin, il y a une clôture, et donc les plaignants et les... j'ai envie de dire, le médecin a mis en cause, ils sont entendus, et des questions lui sont posées, et après, la chambre délibère.
C'est important de le dire, parce que le mot plainte est parfois interprété par le public, imaginant que Didier Raoult allait se retrouver, pourquoi pas en correctionnel, ou un autre tribunal de police, pourquoi pas, et ce n'est pas le cas. Non, mais il faut le dire, parce que quand on dit « je dépose plainte », la traduction immédiate, c'est d'imaginer Didier Raoult devant un tribunal de police ou un tribunal de correctionnel, ce n'est pas le cas.
Non, là, ce qui est reproché, c'est la violation du code de déontologie médicale, et donc ça se gère au niveau disciplinaire.
Bon, bah, écoutez, je pense que nous avons été... complet, si j'ose dire. Sinon, que dans quel état d'esprit il est, Monsieur Raoult ?
Dans l'état d'un soldat qui a un ennemi à combattre.
Et cet ennemi,
Raoult, l'ennemi, c'est le virus. L'ennemi, c'est effectivement de faire en sorte que ce pays retrouve un semblant de raison et effectivement qu'on arrête d'apeurer les gens. Quoi, c'est tout.
Et vous êtes son avocat depuis combien de temps ?
Je suis son avocat depuis quelques semaines, quand il a déposé la plainte contre la NSM.
Parce que vous êtes également dans un autre dossier qui est suivi.
Si vous voulez, moi, la défense des médecins, je fais ça toute l'année. Et donc, c'est un médecin de plus. Hein.
Ah, vous êtes l'avocat des médecins.
Absolument.
Bon, écoutez, merci, monsieur Divizio. Il est 13h15. On va marquer une deuxième pause. Je salue Greg Caranoni. C'était intéressant d'écouter monsieur Divizio et de savoir précisément cette plainte, par qui elle va être instruite et par qui elle va être jugée. On marque une pause.
Avec plaisir.
Pas de chanson aujourd'hui?
On peut y réfléchir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Bon, écoutez, on n'a pas le cœur aux chansons, bien sûr, ni à la musique, mais à tout de suite quand même.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessy nous a rejoint.
Bonjour Pascal, Laurent. Bonjour à tous. Le professeur Didier Raoult fait l'objet de poursuites devant l'Ordre des médecins. Jérôme parle d'une pure jalousie sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Eric s'énerve également. Si on devait porter plainte pour tous les mensonges entendus depuis le début de la crise sanitaire, il y aurait du monde au tribunal. L'Ordre des médecins n'a pas l'habitude d'être contesté, écrit Michel. N'ont-ils pas mieux à faire? Demande Mireille. Quelle honte, lance encore Béatrice. Il est reconnu mondialement. Il dérange, nous dit Thierry. Pour Marie, eh bien Didier Raoult a été trop loin. Et Benoît avoue qu'il a un coup de cœur pour ce mot charlatanisme.
On pourra évidemment parler des accusations de Ziad Takieddine qu'il a retiré contre Nicolas Sarkozy. On pourra parler des commerces, faut-il rouvrir les commerces demain? Du mot également, de l'expression du Premier ministre, ce n'est pas le moment de desserrer la bride. C'est une métaphore chevaline pour la situation d'aujourd'hui. Et puis, vous pourrez réagir sur tous ces sujets. Pour le moment, on poursuit avec Gilles sur le professeur Raoult, parce que c'est ce qui fait le plus réagir pour le moment. Vous êtes chef d'entreprise, vous habillez...
Oui, bonjour Pascal, je suis artisan. Mon préambule, ce sera que si j'attrapais le Covid, j'aurais plus confiance dans Raoult que dans Véran. Ça serait le premier point qui me paraît être quand même plus un politicien qu'un médecin.
Véran est neurologue en même temps, il soigne pas ça.
Oui, mais justement, c'est pour ça que son avis n'est pas tellement éclairé. Puis pareil, on nous a tellement menti que clairement sa crédibilité. Je pense que le professeur Raoult, c'est un clou dans la fesse de Véran. Parce qu'en fait, que Raoult n'a pas compris que le ministre, il savait mieux que tout le monde parce qu'il est ministre. Et je soupçonne, mais là, vous pourriez dire complotiste, je soupçonne qu'en fait, il a mis le doigt sur des trucs qu'on essaie de pousser sur le tapis et que cette plainte, c'est une contre-mesure.
Non, mais l'hydroxychloroquine, convenons que ce n'est pas la panacée. Je vais le dire comme
Attendez, on a un peu de recul.
Moi, je ne suis pas médecin, mais si ça marchait à 100%.
Non, mais c'est pas vrai. Moi, je suis allé fouiller sur le mondial, c'est-à-dire sur des études qui ne sont pas franco-françaises. Bah, je peux vous assurer que l'évidence, elle est loin d'être évidente. Et puis, le dernier point, j'ai suivi il y a 35 ans des cours pour être steward, il y avait un chapitre sur les maladies tropicales, et on prescrivait déjà de la nivaquine une semaine avant de partir et jusqu'à une semaine après être revenu. Et la nivaquine, c'est quoi? C'est de la chloroquine. Donc, sur le côté dangereux, je pense qu'on a salopé son protocole, et ça, c'est factuel. En gros, il disait, à titre, la maladie prise précoce, Et en fait, on a interdit la prescription, de peur peut-être que ça marche, pour le mettre au stade final, là où elle ne peut plus servir à rien.
C'est très complotiste, Gilles.
Non, si. Parce qu'elle relisez ce qui s'est passé depuis 6 mois, c'est très exactement
mais
ce qui s'est passé.
Mais quel serait le mobile? Je pose toujours la même question au complotiste.
Oui, alors justement, moi, je vais vous dire...
Vous croyez que le gouvernement... Attendez, je vous réponds. Vous pensez vraiment que si le gouvernement... avait imaginé que l'hydroxychloroquine soit la solution en mars. Vous ne pensez pas qu'elle serait appliquée partout et tout le temps, plutôt que la situation dans laquelle on est? Mais enfin, je n'arrive même pas à comprendre le raisonnement parfois des complotistes.
Moi, je vais vous retourner une question, Pascal. Vous n'avez jamais vu des gens agir stupidement, borner et persister dans leur erreur? Ben, je vous dis,
contre leur intérêt, il y a un moment, c'est assez rare d'agir contre ses intérêts.
Attendez, regardez une chose. Comment il y a une polémique sur le réexamen qui, comme par hasard, a eu son agrément. C'est-à-dire un truc qu'on ne connaît pas, qui a des effets secondaires.
Mais ça n'a rien à voir avec l'hydroxychloroquine, mais c'est les démarches.
Si, parce qu'en tuant l'un, on promeut l'autre.
Mais quel est le rapport?
Le rapport, c'est quand l'hydroxychloroquine, c'est un produit qui coûte quasiment rien, alors que le Rebsamen, c'est un produit qui est sous brevet, donc qui fait les intérêts d'un laboratoire.
Vous vous rendez compte dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Le mobile, il n'y en a pas dans votre raisonnement. Aucun gouvernement ne pourrait même imaginer cela. Peut-être qu'Emmanuel Macron joue sa réélection là-dessus. Vous pensez vraiment Vous pensez vraiment sert ses intérêts, la situation d'aujourd'hui?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des conseils qui n'étaient pas si avisés. Si je devais écouter un médecin aujourd'hui, j'écouterais un spécialiste des maladies tropicales qui sait de quoi il parle quand il parle de chloroquine. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup de gens qui ont dit des sottises. On a pris des courbes en référence, peut-être parce que c'était ce qu'on avait envie d'entendre. Mais moi, je regarde une chose, c'est que ce que disait, comment il s'appelle, Blachier. La courbe dont parlait Blachier, qui était une autre simulation que celle de Pasteur, elle a l'air d'être en fait aujourd'hui plus avérée que celle de Pasteur. Alors maintenant, qui est des avis contraires? Victoire, oui, mais la science n'est pas une valeur absolue, il n'y a pas une vérité. Donc on peut se tromper de bonne foi et on peut surtout être borné et obstiné. Et ça
merci
s'est déjà
en tout
vu.
Cas, Gilles.
Merci, au revoir.
Merci, c'est toujours souvent, je dis que Gilles et d'autres représentent un courant qu'on entend et c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter. Je partage pas votre avis, je pense que même vous vous trompez, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez le dire. Alors, nous sommes avec un médecin à la retraite qui est à Nantes et c'est Yannick. Toujours sur le sujet Raoult. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Pascal.
Merci Bonjour. D'être avec nous. Vous êtes un peu loin là. J'espère que vous n'êtes pas sur haut-parleur.
Attendez, je vais voir si je suis peut-être sur haut-parleur. Oui.
Ah oui, Ah oui, j'ai l'oreille. J'ai
en train de préparer mon café, alors, tout en vous écoutant.
Ah oui, mais si vous nous parlez au fond de la pièce, on va moins vous entendre.
Vous m'entendez mieux?
Ah ben là, je vous entends même parfaitement.
D'accord.
Bon, votre avis. D'abord, cet ordre des médecins, vous pouvez peut-être le mettre en perspective, parce que nous, on n'est pas forcément. On ne connaît pas ça tout à fait parfaitement.
Bah écoutez, pour moi, comme pour beaucoup de mes collègues et confrères, l'ordre des médecins a quand même brillé par son silence lorsque on a décidé d'interdire aux médecins français et particulièrement aux médecins généralistes de prescrire l'hydroxychloroquine. Parce que il a fait cette interdiction alors qu'il n'y avait aucune raison de la faire puisque cette hydroxychloroquine est prescrite depuis 70 ans. Et que s'il y a quelques problèmes cardiaques avec cette prescription, tout généraliste, tout médecin français digne de ce nom connaît les inconvénients et connaît ce qui nous empêche de prescrire. Ce qu'a fait le professeur Raoult, d'ailleurs, lorsqu'il a prescrit l'hydroxychloroquine au tout début, il a fait un électrocardiogramme à chaque patient qui recevait l'hydroxychloroquine. Bon, donc quand on nous dit prescrivez plutôt le doliprane, je peux vous assurer que le doliprane est, pour ma part, beaucoup plus dangereux que l'hydroxychloroquine, parce que le doliprane entraîne des complications rénales assez fréquemment quand on dépasse la dose. Et prescrire, nous avoir dit au mois de mars, prescrivez rien que du doliprane, c'était déjà une énorme connerie.
Bon. Mais sur le fond, est-ce que ça tient ce qu'on reproche à Didier Raoult? Et je rappelle, violation de la confraternité. De la confraternité, franchement, il n'est pas le seul. Information erronée au public, mais il n'est pas le seul.
Rire parce qu'à ce moment-là, il faut que le Conseil de l'Ordre porte plainte pour violation de la confraternité à tous ces médecins soi-disant experts qui se sont répandus sur toutes les chaînes de télévision et qui ont tapé sur le professeur Raoult. Ça me fait doucement rigoler quand même.
Et puis l'image des médecins, moi ce qui me surprend beaucoup là-dedans, déjà les médecins franchement vont sortir de cette... séquence, disons-le, affaiblie, parce qu'on aura bien vu, et ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que l'épidémie commençait, on a vu beaucoup d'avis divergents, mais je ne saisis pas l'intérêt de l'ordre des médecins en son sein d'attaquer une personnalité aussi, j'allais dire, emblématique que Didier Raoult, même si elle est contestée, même si l'hydroxychloroquine, on est tous d'accord pour dire que c'est pas la panacée, que si ça marchait
non, attendez,
à 100%,
c'est ça. Non, non, vous dites ça, mais nous, on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, le prédécesseur qui a parlé juste avant moi vous a dit exactement la même chose.
Oui, sauf que Gilles, il est artisan, il n'est pas médecin. Donc, oui, il dit j'ai lu des choses dans la presse sur Internet. Vous, oui, à la limite, vous pouvez être plus crédible. Si
ah bah
vous
oui,
le...
mais il a été chercher des bonnes informations. C'est
oui.
ce qui parfois, justement, le distingue de beaucoup de gens qui parlent de presque parce qu'ils ont entendu des choses à la télé ou à la radio. Et on sait, vous et moi, que ce qu'on entend à la télé, à la radio, c'est quand même pas toujours la réalité.
Non, mais convenons, c'est la deuxième fois que je le répète dans l'émission, que si l'hydroxychloroquine guérissait le Covid-19, nous le saurions depuis longtemps, quand même.
Mais non, justement. Et pourquoi il y a des pays dans le monde qui continuent
Vous me fascinez, Yannick. Je peux pas vous dire autre chose. Vous me fascinez.
Fascine
en fait. Et je suis pas médecin. Hein. Donc vous imaginez que l'hydroxychloroquine puisse guérir tout le monde et vous-même vous êtes médecin.
Mais j'ai pas dit tout le monde. J'ai dit simplement que l'hydroxychloroquine. D'ailleurs, qui sait ce qu'a dit Monsieur Raoult depuis le début. L'hydroxychloroquine doit être prescrite dans les premiers jours de la maladie. Donc, si on prescrit l'hydroxychloroquine dans les 4 ou 5 premiers jours de la maladie, elle est efficace. Avec en plus l'azithromycine ou un médicament ou un antibiotique de cette même famille, dont on sait pertinemment, nous, que c'est un antiviral également. Donc, vous prenez l'hydroxychloroquine, vous ajoutez l'azithromycine, et là, dans les 5 premiers jours de la maladie, vous avez une action. Vous avez une action qui est patente. Que le professeur Raoult a démontré d'ailleurs, mais il n'est pas le seul. Il y a de nombreuses études dans le monde qui le montrent. Il suffit de ressortir ces études. Mais on n'a pas voulu les voir, ces études. L'OMS, d'ailleurs, ensuite est revenu sur ses dires. Mais l'OMS, au départ, a dit exactement
mais pourquoi
la même chose.
C'est toujours la même question. Pourquoi on ne voudrait pas les voir? Quel est le mobile?
Je ne peux pas vous dire pourquoi.
Mais peut-être parce que ça marche.
Ce que je peux vous assurer, c'est que quand on a décidé, dans les études qui avaient été lancées en France, quand enfin, dans ces études, on a décidé de rajouter l'hydroxychloroquine, là, on a fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai une petite idée, mais je ne vous le dirai pas parce que sinon je vais également moi me retrouver en examen pour anticonfraternité, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas exactement pourquoi, mais vous allez chercher et vous trouverez. On a inclus l'hydroxychloroquine dans les études et on a donné cette hydroxychloroquine à des gens qui étaient déjà hospitalisés sous assistance oxygène. Alors que le professeur Raoult, comme les défenseurs de l'hydroxychloroquine, disent que ça ne marche que dans les 2 ou 3 premiers jours de la maladie. Donc, dire, on va inclure, à la demande peut-être de M. Macron, qui avait été rendre visite à M. Raoult, on va inclure l'hydroxychloroquine dans les études et l'inclure lorsque l'on sait pertinemment, et M. Raoult l'a dit le premier, que ça ne fonctionne pas au bout de 15 jours, 3 semaines, quand on est hospitalisé, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, vous serez d'accord avec moi. Donc là, on vous dit, vous voyez bien que ça marche pas. Mais on a toujours dit que ça marchait pas dans les premiers jours. On peut faire la même... On peut faire exactement la même critique du Reflual. Vous avez un antiviral que l'on a prescrit en son temps lorsqu'on avait des épidémies de grippe qui, au passage, faisaient autant de milliers de morts en France que le Covid en ce moment. Hein. On a eu des épidémies de grippe qui ont fait 110 000 morts en 69. Donc, on a prescrit du Reflual, qui est un médicament qui est fabriqué par le même laboratoire américain que le Remdesivir, donc on peut pas aller contre. Eh bien, ce Reflual, il est bien prescrit, il est bien précisé qu'il faut le prescrire dans les 2 ou 3 premiers jours.
Merci, cher Yannick.
Voilà.
Je pense que On a compris ce que vous vouliez dire et on va refermer la page Raoult à 13h28 puisqu'il y a beaucoup de sujets, je l'avais dit aujourd'hui, et notamment le sujet Sarkozy qui vous fait beaucoup réagir puisque vous le savez, Takieddine a enlevé, a retiré les accusations Ziad Takieddine qu'il avait formulées contre le chef de l'État. Il a dit à une interview à Paris Match, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Or, Takieddine avait assuré à plusieurs reprises devant des juges d'instruction, mais aussi lors d'interviews, qu'il aurait servi, lui Takieddine, d'intermédiaire au financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. La vérité éclate enfin, a réagi immédiatement Nicolas Sarkozy. Quelles suites judiciaires auront ces déclarations? Est-ce que le dossier d'accusation est éteint? Nous, non, nous disait tout à l'heure Thomas Proutot, mais Cédric a envie de réagir et je le salue. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous avez 40 ans.
Tout à fait. Alors oui, moi j'ai envie de réagir et pour dire, donc pour Nicolas Sarkozy, il est, comment dire, ça va l'aider à gagner la prochaine présidentielle. Parce que
ça démarre fort, si vous me permettez.
Ah oui, ça démarre très fort. Non, mais je vais étouffer quand même. Je vais pas dire ça comme ça. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il soit innocenté ou pas, il est condamné par la vindicte populaire. Ça, il n'y a pas de doute. En revanche, pour les sympathisants, les Républicains, c'est le candidat qu'il leur faut. Et tout le monde le dit, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et le fait de se faire innocenter comme ça, ça va aider lui à remonter sa cote de popularité au niveau des sympathisants LR. Et aussi au niveau des sympathisants qui ne savaient plus trop s'ils voulaient voter pour le Rassemblement National, pour les Républicains, puisqu'on est d'accord qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour représenter les Républicains dignement. On avait déjà eu cette conversation tous les deux. Mais voilà, moi je pense que ça va le servir pour la présidentielle. Ces deux ans qui arrivent, il va s'en servir pour s'innocenter totalement, même s'il y a des parties de l'affaire qui sont pas encore très claires et dont on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. Mais je pense que ça va le servir effectivement pour revenir dans la course à la présidentielle. Et comme disait Éric Ciotti, c'est vrai que les affaires sont un peu sorties juste avant les primaires, juste avant les présidentielles.
Une affaire en 2012 qui était sortie au moment de la campagne électorale de la réélection qui n'aura jamais lieu puisque c'est François Hollande qui avait été élu président de la République en 2012.
Exactement. Donc je pense très honnêtement que ça va l'aider à revenir sur la scène. Sur le devant de la scène. De toute façon,
je ne sais pas s'il en a envie. Vous savez, Nicolas Sarkozy, il passe son temps à dire que pour lui, il est plus heureux à faire ce qu'il fait aujourd'hui que ce qu'il faisait avant.
Ouais, mais bon, la parole des politiques, hein, vous connaissez. Donc,
non, mais il a 66 ans, Nicolas Sarkozy, il a peut-être envie de faire autre chose. Hein. Vous savez, ouais, c'est être président de la République, c'est prendre des coups en permanence. Donc, il est peut-être plus heureux à faire ce qu'il fait aujourd'hui.
Ouais, il a 66 ans,
Oui, c'est plus. C'est un enfant à côté de Joe Biden, c'est ce que vous voulez dire.
Mais je veux dire, c'est un monstre politique, Sarkozy. Il peut pas s'en passer. Il a besoin. Il aime recevoir.
J'ai l'impression que c'est surtout vous qui pouvez pas vous passer de lui plus que lui qui ne peut pas se passer.
Moi, de toute façon, je prêche pour ma paroisse parce que je suis un sympathisant des Républicains.
Échappé. Ça m'a pas échappé.
Donc, pour moi, si Sarkozy revient, je suis content. Et puis, je veux dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment pas entre guillemets Nicolas Sarkozy, mais qui ont le courage de dire quand même que quand il était chef de l'État, ils n'ont jamais aussi bien gagné leur vie. Et voilà.
Merci
ça,
Cédric.
Ça peut aider. Donc voilà mon avis.
Bon, ça va autrement. Vous avez une entreprise de quoi ?
J'ai une entreprise de bâtiment. Moi, je suis dans le bâtiment, dans le second œuvre.
Et vous souffrez actuellement comme tout le monde ?
Non, je ne souffre pas parce que j'ai la chance de pouvoir travailler librement, de pas être fermé. En revanche, je soutiens franchement mes collègues restaurateurs et petits commerces. Et d'ailleurs, je me posais la question si le compromis ce serait pas peut-être d'ouvrir les petits commerces 3-4 jours par semaine. Et voilà, je sais pas. Il faudrait trouver un compromis pour aider justement tous ces petits commerces pour leur éviter entre guillemets la mort.
On va en parler dans une seconde et puis on attend les déclarations de Jean Castex ce soir à 18h. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h36, avec Laurent Tessier.
Un nouveau conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée. Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex à 18h. Un rendez-vous annoncé par Emmanuel Macron il y a deux semaines et attendu par les commerçants.
Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël.
Oui, un peu plus d'un mois de Noël, c'est la demande des commerçants. Yoann Petiot est le directeur général de l'Alliance du Commerce. Il était l'invité de RTL ce matin.
C'est celle de la réouverture. Nous demandions depuis 15 jours au gouvernement la réouverture le 13 novembre. Nous allons voir ce qui va être dit aujourd'hui. Mais si le 13 ne devait pas être retenu aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à sauver et à ouvrir les commerces à partir du 27 novembre. Le 27 novembre, ça représente 4 week-ends avant Noël.
Alors, faut-il rouvrir tous les commerces rapidement dès demain? S'il n'y a pas de réouverture d'ici la fin du mois, risquez-vous de mettre la clé sous la porte? Arrivez-vous à vous en sortir un minimum avec la livraison et le retrait de commande? Avec nous en studio à 14h, François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Et Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie, vous habitez dans l'Yonne.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Merci d'être là. Quelle est votre position sur la réouverture ou non des commerces?
Comme je disais, très très malheureusement, je pense qu'il faut encore prolonger un petit peu la fermeture.
Pourquoi?
Parce que je pense que ce virus circule quand même beaucoup. Et bon, par précaution, je pense qu'il faut prolonger, je dirais d'une semaine encore, la fermeture des petits commerces. Mais après, il faut absolument ouvrir, absolument, parce que sinon, c'est la mort économique de tous ces gens-là.
Et vous pensez qu'une semaine, en une semaine, les choses vont changer?
Je l'espère, j'en sais rien, je suis comme tout le monde, mais je l'espère fortement. Et puis je disais à votre collaborateur, il faut que les commerçants ouvrent sur des plages horaires beaucoup plus grandes quand ils vont ouvrir. Les week-ends, le matin pas trop tard, le soir pour les gens qui sont plutôt parce que c'est vrai que sinon on va être tous engorgés dans les magasins en même temps.
Quel est aujourd'hui le commerce qui vous manque le plus, Sylvie?
Les librairies.
J'allais dire que je suis content de votre réponse, mais c'est vrai que on aimerait que les librairies soient ouvertes, mais de tous les petits commerces, on peut citer
les petits commerces, de toute façon, parce
on peut citer les coiffeurs, bien sûr, parce que c'est essentiel.
Parce
que là, ça fait maintenant 15 jours que c'est fermé, donc on va chez le coiffeur à peu près une fois par mois, peut-être.
Moyenne. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir été juste avant la fermeture.
Mais moi, d'ailleurs, j'ai une question toute simple. Les couleurs, c'est le coiffeur qui les fait en majorité ou les gens se les font tout seuls et je pense plutôt pour les femmes?
Oui, moi, je faisais mes couleurs chez le coiffeur, mais depuis le premier confinement, je ne fais plus de couleurs. Et puis, j'assume ma couleur de cheveux.
Ça, c'est pas mal comme ça. Mais faire une couleur soi-même, pardonnez-moi de poser une question de béotien, mais c'est aisé, c'est facile ou c'est compliqué?
Oui, non, c'est pas très compliqué. Par contre, vous avez quand même pas le résultat.
C'est pas terrible, c'est pas professionnel. Donc je vais guetter, pour tout dire, les ministres, pourquoi pas, et voir si elles se font toutes seules leur couleur ou si elles ont des dérogations. Vous voyez,
Je pense qu'elles ont des dérogations.
Vous pensez?
Je pense.
Bon, faudra leur poser la question. écoutez, merci Sylvie.
Je voulais vous dire que, il faudrait que tout citoyen soit pareil. Moi, j'ai décidé qu'à Noël, ce serait que des cadeaux venant de petits commerçants.
Ah, ça, c'est une bonne idée.
Ça sera des livres pour mes petits-enfants.
Vous allez célébrer Noël quand même cette année?
Ah oui, de toute façon, oui.
De toute façon, peut-être que vous ne pourrez pas. Mais vous avez combien d'enfants?
J'ai 2 enfants.
L'année dernière, à Noël, vous étiez combien autour de la table?
On était 7.
Bon, 7, c'est...
Oui, voilà. Donc,
faut bien aérer avant, mais a priori, c'est pas forcément le plus prudent de faire un dîner à 7.
Je le sais, mais les dernières vacances, j'ai pris mes petits-enfants en vacances, malgré tout, malgré que je sois à risque, je le précise.
Quel âge ils ont, les petits-enfants?
Ils ont 8 et 12.
Et vous les avez gardés les deux ensemble?
Oui.
Et vous êtes toute seule?
Oui.
C'est dur, de 8 et 12 ans, toute la journée, toute seule.
Je vous le confirme. Mais bon, ce que j'ai fait, j'ai gardé mon masque, moi, tout le temps, avec eux. Sauf les repas, évidemment. Mais les repas, j'avais ouvert ma rallonge et on mangeait un peu plus éloigné que d'habitude.
Et vous les avez gardés pendant combien de temps?
3 jours.
Donc c'était, ça pouvait aller, mais c'est vrai qu'il faut les occuper, quoi. 8-12 ans, c'est remords à cet âge-là.
Ah bah oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, on s'adapte. Hein.
Et vous étiez maison, jardin ou appartement?
Oui, avec un jardin. Bon.
Et ils ont été gentils avec leur mamie?
Ah oui, ils sont très gentils avec leur mamie.
Bon.
J'ai une très bonne relation avec mes petits-enfants.
Bah, on vous en parlait bien en tout cas.
Oui, bah, je les aime beaucoup.
Et vous savez que c'est... Et ça doit être réciproque.
Ah oui, oui, on est très... Ma petite fille, on est très fusionnelles, toutes les deux.
C'est drôle. J'aime bien vous entendre parler de ça, Sylvie. Il est 13h42, on va quand même poursuivre avec ces commerces, parce que c'est pas exactement notre sujet du jour de parler de la relation petits-enfants, grands-parents, mais...
Non, mais vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait un peu plus d'amour.
Bah oui.
Entre les gens.
Bah oui, mais la nature humaine, Sylvie, on va, voilà, c'est la vie.
Vaste sujet.
Non, mais c'est des systèmes. Les gens pris individuellement, ils sont toujours formidables, mais t'es broyé parfois dans des systèmes.
Mais
ils sont gentils, après les gens, évidemment, mais c'est la vie professionnelle, voilà, la vie tout court fait que parfois tu.
Je suis d'accord avec vous.
Vous savez, individuellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis. Si vous les prenez tous un par un, il n'y aura pas de problème.
Ben oui, c'est vrai.
Bon, merci Sylvie.
Eh bien merci Monsieur Pro. Bonne fin de journée.
Bonne journée à vous. Fabienne est là pour parler des commerces également. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour.
Vous habitez Chambéry, vous avez une boutique de prêt-à-porter?
Alors, je suis responsable d'une boutique de prêt-à-porter, mais qui est d'une marque, ce n'est pas ma boutique. Moi, je suis salariée. Simplement, je voulais intervenir sur les petits commerces et je vous remercie infiniment de m'écouter. Concernant les petits commerces, petites entreprises, artisans, car j'ai été moi-même artisan. J'ai eu moi-même avec mon conjoint un magasin il y a quelques années et je mesure à quel point ce qu'ils vivent aujourd'hui est très, très difficile. En fait, cet éclairage-là, je voulais l'amener car pour expliquer à certains, les salariés de grandes entreprises, fonctionnaires, sachant que mon objectif n'est pas là d'opposer les catégories professionnelles, mais d'expliquer, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un petit commerce, une petite entreprise. Un petit commerce, c'est un engagement personnel, c'est un engagement professionnel de tous les instants, c'est 60 heures par semaine, c'est l'argent qu'on a mis, c'est de la trésorerie personnelle, c'est une hypothèque sur des voitures, des maisons. Quand on ferme le rideau, si malheureusement des gens ferment le rideau demain, c'est pas simplement ils ferment le rideau. Ils perdent tout. Ils perdent tout. Il faut que les gens l'entendent, ça. Ils perdent parfois leur voiture, ils perdent leur maison. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont plus d'argent et ils touchent même pas le chômage. Beaucoup de gens ne le savent pas et ne le mesurent pas. Je suis très émue parce que je ne suis pas concernée, mais j'ai vécu des situations similaires et je pense beaucoup à tous ces gens qui vont souffrir. Donc, l'objet de mon appel, c'est de faire prendre conscience que ces petits commerces ont besoin de soutien. Et donc, le deuxième volet de mon appel, c'est de dire qu'il faut absolument que les gens soient solidaires cette année, achètent dans les petits commerces.
Encore faut-il qu'ils soient ouverts.
Alors, en souhaitant qu'ils réouvrent, et moi, je le souhaite aussi parce que je suis salariée d'une grande enseigne, qu'on réouvre, sachant de façon étalée avec les mesures sanitaires. Sincèrement, on avait des mesures très strictes et très, très, très rigoureuses pour que les gens ne tombent pas malades chez nous. Et je pense que c'est beaucoup moins dangereux dans les petits magasins que dans les grandes surfaces, sans pouvoir les opposer toujours. Et du coup, de dire il faut que cette année, les gens soient solidaires et achètent dans les petits commerces en grande partie. Pourquoi ? Parce que si on attend janvier ou les soldes, les gens ne tiendront pas, les artisans ne tiendront pas, ils seront morts avant. Avec 3 mois ou 4 mois de fermeture cette année, ça ne sera pas possible. Donc il faut aussi, moi j'appelle à la solidarité des gens et aux gens qui font leur liste de Père Noël, plutôt que de commander un pyjama avec, c'est un exemple, un pyjama avec rose à pois vert, avec une capuche en fourrure, une fermeture éclair en bas, qui demande un pyjama point. Et que les gens qui fassent ces cadeaux ne passent pas des heures à devoir chercher et qu'ils aillent au plus simple dans les commerces où ils trouveront du choix, mais où il n'y aura pas exactement peut-être ce qu'ils voulaient, que les gens soient moins exigeants mais solidaires. Un bouquet de fleurs chez le voisin, un chocolat chez le chocolatier, une écharpe chez la mercerie. Que cette année, il faut vraiment que tout le monde s'y mette parce que tous ces petits commerçants, ils ne vont pas tenir. Et gros commerçants non plus, mais c'est mesurer à quel point ces fermetures sont dramatiques et c'est des vies qui vont être brisées, mais des vies. Voilà.
Eh ben merci Fabienne de ce témoignage et on va poursuivre sur les commerces puisque c'est un des sujets majeurs. On attend effectivement les déclarations de Jean Castex ce soir à partir de 18h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il y avait beaucoup d'émotions évidemment dans le témoignage de Fabienne et on la remercie une nouvelle fois. Rose est là. Bonjour, qui est commerçante en Gironde.
Bonjour,
vous allez écouter ce soir le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que vous attendez quelque chose?
Bah écoutez, je serais tentée de dire, comme a dit un professeur célèbre, un jour qu'elle a été interrogée sur l'allocution de, bon, je ne sais plus si c'était Bruno Le Maire ou de Monsieur Macron, hein, il a dit rien. Donc malheureusement, au jour d'aujourd'hui, rien. Parce qu'on sait que de toute façon, il n'en sortira rien. Hein. Et moi, ce qui m'exaspère, c'est que ce matin encore, je viens d'entendre que à peu près 20 à 40% des commerces de proximité vont fermer dans les prochains mois. Hein. Et c'est énorme. C'est énorme. Et que ça va faire des faillites en cascade, des gens qui vont se retrouver sans rien, parce qu'en effet, commerçant, on n'a pas de chômage, on a une retraite qui est épouvantable. Je crois que ça va être la pire des retraites qu'on puisse toucher.
Vous n'avez pas de retraite parce que vous n'avez pas cotisé non plus.
Si, bien sûr.
Vous avez une retraite en fonction des cotisations que vous avez versées quand même.
Je vais vous dire, ah non, pas du tout. Parce qu'on a un système qui est différent. Mmh. Et si vous voulez, moi je vais vous me rappeler une autre fois, je vous dirai, et je veux bien même le dire sur l'antenne, hein, combien je paye pour ma retraite et combien je vais toucher. Ah, je vous garantis que non.
Vous avez calculé votre retraite?
Non, parce que, je crois que si je veux la calculer, j'arrêterai de travailler.
Vous seriez déprimé.
Non, on a un régime.
Parce qu'il y a des systèmes quand même, vous avez un régime, mais il y a quand même des systèmes, vous pouvez organiser votre retraite si vous le souhaitez en cotisant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Ah, mais d'accord, mais ça nous coûte combien?
Je ne sais pas, puisque vous n'êtes pas salarié, donc c'est à vous, de mettre en place la retraite que vous souhaitez avoir.
Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça nous coûte très cher.
Vous croyez que ça ne nous coûte pas cher, nous, les salariés?
Ah, mais ça nous coûte beaucoup plus cher. Monsieur Pro, je vais vous donner qu'une chose. Pendant des années, par exemple, hein, quand vous étiez en arrêt maladie, vous avez toujours eu 3 jours de carence. Mmh. Nous, on était à 10 jours, voire 15 jours, quand j'ai commencé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a jamais eu les mêmes régimes que vous. Notre régime de sécurité sociale a toujours été bénéficiaire. Hein. Et ben le surplus en fin d'année, on nous le piquait pour la Sécu. Nous, on n'a jamais été, notre régime, il n'a jamais été bénéficiaire, déficitaire. Et si on l'a fondu avec le vôtre, c'est pour pouvoir prendre notre bénéfice. Attendez, ça, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez tout le trouver. Tout ce que je vais vous dire, hein, je vous dis, c'est véridique. C'est véridique. Et même au jour d'aujourd'hui, on n'a encore même pas la même carence. Vous savez, par exemple, nos indemnités journalières, elles sont, c'est un certain montant maximum. Maximum. Mmh. Hein, et le maximum, je pourrais éventuellement aussi vous le dire, si vous le voulez, hein, parce que j'ai été en arrêt maladie, hein, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, quoi que vous cotisez, je crois que c'est de l'ordre de 50 ou 60 euros maximum par jour.
Rose, vous êtes commerçante dans quel secteur en Gironde?
Prêt-à-porter.
Prêt-à-porter. Vous avez combien de magasins?
3.
3 magasins. Bon, ils sont fermés aujourd'hui?
Oui.
Bon.
Ouais. Donc voilà. Et bon, mais tout ça, c'est pour dire que non, commerçant, on n'a jamais eu le même traitement. On n'a jamais eu le même traitement. Et voilà. Et la maladie, par exemple, si on prend une complémentaire maladie, on va payer 3 fois plus cher que, moi, si vous voulez, mon montant, je pourrais vous le chercher. Hein, et je pourrais vous donner tous ces chiffres. La complémentaire maladie nous coûte 3 fois plus cher, ou 4, ou je ne sais pas, qu'une complémentaire maladie.
Que des salariés. Bah, merci en tout cas pour ces renseignements. Et puis, on va être avec Rebecca, qui est commerçante également. Bonjour Rebecca, vous êtes fleuriste?
Oui, bonjour.
Et effectivement, vous êtes fermée, vous êtes obligée d'être fermée en ce moment.
Bah exactement. Donc là, c'est la colère qui ressort. Parce que si on continue, autant le premier confinement, on l'avait tous plus ou moins bien vécu, entre guillemets, parce que c'était tous ensemble. Mmh. Et là, c'est pas du tout équitable. C'est pourquoi les uns et pas les autres?
Mais par exemple, qui est ouvert?
Les jardineries sont ouvertes, parce qu'ils ont des aliments pour animaux. Alors oui, effectivement, ils n'ont plus le droit de vendre de fleurs coupées, mais ils ont le droit de vendre des plantes, ils n'ont plus le droit de vendre des décorations de Noël. Et on pense à nos producteurs de tulipes, à nos producteurs de renoncules, d'anémones qui arrivent, tout ça. On pense à tous nos producteurs, à toute cette chaîne.
Mais vous pouvez faire du click and collect, les fleuristes.
Oui, mais ce n'est pas pareil. Quand on achète un bouquet de fleurs, vous l'achetez avec l'œil.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais moi, ce que je vois, c'est des fleuristes qui ont mis devant leur étal des fleurs, des gens qui sont à proximité et qui passent par Internet, mais quasiment en direct, pour commander des fleurs qu'ils voient. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je comprends tout à fait. Mais quand vous êtes sur un marché, vous faites comment ? L'Internet sur le marché ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Internet sur le marché ?
Bah pas vraiment, non, sur un marché, quand vous allez...
Bah vous pouvez avoir avec... ça peut avec un smartphone, ça peut
ouais,
marcher.
Mais vous faites beaucoup sur marché ?
Parce que vous êtes fleuriste et vous allez plutôt sur les marchés plutôt que,
oui,
qu'une boutique.
Exactement, ouais. Et vous allez faire vos courses où ? Sur un marché, en grande surface ?
Moi, je vais plutôt dans pas une épicerie d'ailleurs, mais un petit supermarché de quartier.
D'accord, donc vous n'allez pas faire vos courses sur un marché ?
Non, jamais.
D'accord.
Mais je ne fais pas beaucoup de courses, vous savez, parce que je ne sais rien faire, donc je fais des steaks hachés et des pommes noisettes. Donc c'est assez...
Ouais, ça, c'est pas terrible, hein.
Bah oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est ce que je mange tous les soirs et j'en ai marre pendant les confinements.
Ouais, je vous comprends.
Donc,
il faut faire travailler les restaurateurs qui sont à côté de chez vous.
Ben oui, je sais. C'est ce qu'on me dit, mais bon. Enfin, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous et la fleuriste que vous êtes. Donc, vous êtes là. Donc, en ce moment, vous êtes à zéro.
Peanuts, zéro.
Mais comment vous faites ? Vous avez de la trésorerie d'avance ? Vous avez des aides ?
Oui, on a une aide de l'État et basta.
Et combien vous avez eu d'aide jusqu'à présent ?
1500 euros.
Pour ça, vous les avez touchés, ces 1500 euros ?
Oui, pendant le premier confinement.
Et pour le 1500 euros par mois ?
Oui.
D'accord, donc vous avez touché deux fois. Vous avez touché 3000 euros ?
Oui.
Bon, 3000 euros net ?
Oui.
Bon, et pour le moment, quand est-ce que vous avez fermé quand votre...
Au 1er novembre. On a eu le droit de jusqu'au 1er novembre. Après,
et vous pouvez tenir combien de temps ?
Bah, pas longtemps. Hein. Après, c'est la mort dans l'âme. Hein.
Et c'est-à-dire, votre vie, Rebecca, vous êtes mariée, vous avez des enfants ?
Bien sûr, je suis mariée, j'ai des enfants, il faut que je nourrisse mes enfants, faut que je paye l'école de mes enfants.
Et votre mari, il travaille avec vous ou il a un salaire ?
Non, heureusement qu'il a un salaire.
Autrement, vous seriez...
Aujourd'hui, je fais comment ?
Autrement, vous pourriez, effectivement, vous seriez à la rue.
Exactement. Aujourd'hui, je ferai partie des commerçants qui ferment rideau.
C'est un problème insoluble. C'est un problème insoluble parce qu'effectivement...
Il y a deux poids, deux mesures.
C'est surtout que on sait bien qu'un petit commerce, si vous mettez un protocole précis avec une seule personne qui rentre...
Il y a un protocole précis. Mmh. On met tous nos masques. On fait tous attention. Mmh. On ne va peut-être pas prendre non plus la température de chaque client avant de rentrer au marché.
Non, mais ce qui est compliqué, c'est que si ça durait 15 jours ou même 2 mois, cette épidémie, mais comme on est parti pour une période très très longue, qu'est-ce qu'on va faire après ? C'est ça qui est... La vision ou la stratégie, elle n'est pas forcément à long terme. Alors, bien sûr que c'est difficile pour le gouvernement, on le dit à chaque fois. Mais
c'est difficile, mais il réfléchit.
Mais c'est aussi difficile pour le fleuriste.
Mais bien sûr, il n'y a pas que le fleuriste, mais je pense que le gouvernement, il n'arrive pas, monsieur Castex, n'arrive pas à trop réfléchir.
Bah si, je pense qu'il fait que ça, réfléchir, bien sûr.
Réfléchir, mais il dit tout et son contraire.
Bah moins maintenant d'ailleurs, moins maintenant. Ouais, il y a plus de cohérence puisque la stratégie est assez rude, disons-le.
Ouais. Voilà, plus que rude. Hein. Plus que rude. Mais c'est de la colère, voilà. Moi, je suis en colère.
Et les commerçants que vous connaissez sont dans le même état d'esprit que vous ?
Mais moi, je suis déjà une coléreuse de base. Mais oui, ils sont tous en colère. Les fleuristes sont en colère. Les producteurs, nos producteurs sont en colère. Nos fournisseurs sont en colère.
Ben,
on ne parle pas aussi ceux qui vendent tout ce qui est décoration de Noël sur Rungis, etc. On n'en parle pas. Mais eux aussi sont en colère. Ils investissent énormément. Ils vont faire comment ? Si nous, on n'achète pas, si nos clients n'achètent pas, c'est toute une chaîne.
Merci, Rebecca.
Merci à vous.
Non, mais votre témoignage est vraiment formidable, vraiment passionnant et tellement représentatif de commerçants qui sont en France et on ne peut que penser à eux et à leurs difficultés dans ces moments qu'ils traversent. Olivier Bois dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Et cette annonce d'abord qui est tombée il y a une demi-heure maintenant, un peu plus d'une demi-heure. Bridgestone va fermer son usine de pneus à Béthune. C'est la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher qui l'a annoncé en sortant de la réunion. Franck Hanson, vous êtes sur place. Les négociations ont échoué.
Oui, en effet, au terme de plus de deux heures de réunion maintenant, Bridgestone a donc fermé la porte à un scénario alternatif. Le groupe japonais va donc fermer son usine de Béthune, implantée ici depuis 60 ans. Raison invoquée, surcapacité, ce qui provoque évidemment beaucoup de déception et de colère chez les représentants des salariés qui ont l'impression, disent-ils, d'avoir été baladés. Un projet de poursuite de l'activité de pneumatique avec 560 salariés sur 860 était un temps envisagé. Il ne se fera pas, du moins avec le soutien du groupe, mais nous allons nous battre, a promis la ministre Agnès Pannier-Runacher, nous battre pour l'avenir du site et de ses salariés. La ministre s'est exprimée à l'issue de cette réunion aux côtés des élus locaux mobilisés. L'État et la région sont toujours prêts à investir. Des projets de réindustrialisation sont maintenant envisagés autour notamment d'une future usine de batterie, mais il va falloir digérer, encaisser pour ses salariés. On ne s'attendait pas à un miracle de la part de Bridgestone, me confier un délégué. Maintenant, ils vont devoir payer au maximum pour ces ouvriers qui, jusqu'à présent, qui jusque depuis l'annonce de la fermeture, ont toujours été exemplaires dans cette région.
Merci beaucoup, Franck Hanson, correspondant à RTL dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça n'est pas le moment de relâcher la bride, selon le Premier ministre Jean Castex. Il y a eu un conseil de défense ce matin pour faire le point après 15 jours de reconfinement. Le Premier ministre qui donne une conférence de presse ce soir à 18h, mais on sait d'ores et déjà que normalement, il n'y aura pas d'assouplissement des règles, notamment pour les petits commerces. C'est trop tôt, c'est ce que martèle l'exécutif, même s'il y a des signes encourageants d'une propagation de l'épidémie qui semble, à l'heure actuelle, mieux maîtrisée. 60% des Français reconnaissent avoir déjà enfreint les règles du confinement depuis 15 jours en faisant des attestations de déplacement pour aller voir, par exemple, les amis ou la famille. C'est 27 points de plus qu'en avril où les règles avaient été mieux respectées. On termine avec le quintet à Vincennes, l'arrivée provisoire à l'instant. Le 7, le 11, le 8, le 2 et le 15.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et à 14h02, avec Laurent Tessier, et présent déjà dans ce studio François Asselin, qui est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises que vous connaissez. Bonjour monsieur.
Bonjour Pascal Pro.
Laurent va nous préciser ce dont nous allons parler à l'instant.
Un nouveau conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée. Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex à 18h. Les commerçants attendent cette prise de parole. Un rendez-vous annoncé par Emmanuel Macron il y a deux semaines lors du reconfinement.
Si d'ici 15 jours nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël.
Oui, à un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année, les commerçants n'attendent qu'une seule chose. Johan Petiot est le directeur général de l'Alliance du Commerce. Il était l'invité de RTL ce matin.
C'est celle de la réouverture. Nous demandions depuis 15 jours au gouvernement la réouverture le 13 novembre. Nous allons voir ce qui va être dit aujourd'hui. Mais si le 13 ne devait pas être retenu aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à sauver et à ouvrir les commerces à partir du 27 novembre. Le 27 novembre, ça représente 4 week-ends avant Noël.
Une réouverture immédiate des commerces dits non essentiels qui n'est pas envisageable à ce stade, selon le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Certains secteurs sont actuellement plus touchés que d'autres. Par exemple, les enseignes de la mode. Plus de 5000 emplois ont été supprimés en raison de cette crise sanitaire depuis le début de l'année, car les pertes s'accumulent.
65 000 salons de coiffure sont à l'arrêt à 3 semaines de leur plus gros mois de l'année. La restauration aussi vivote à peine, baisse de plus de 90% de l'activité. La livraison lui permet de sauver environ un quart de son chiffre d'affaires. Gros coup dur enfin pour les magasins d'ameublement, électroménager, bijouterie, décoration, jeux vidéo, boutique textile. L'habillement justement qui s'attend à une baisse de 30% de ses revenus cette année avec ce nouveau mois de confinement.
Inquiétude aussi pour les professionnels du jouet. Le click and collect maintient seulement 10% du chiffre habituel du secteur. Certains milieux s'en sortent tout de même un peu mieux.
Les librairies indépendantes maintiennent en ce moment 40% de leur activité grâce aux ventes à distance. Ce n'est qu'une moyenne. Pour les fleuristes aussi d'ailleurs, la livraison leur permet de sauver les meubles. 8 artisans sur 10 sont ouverts avec 25% de chiffres réalisés. Reste que dans les deux cas, l'équilibre financier est loin d'être atteint.
Et les conséquences sont directes pour bon nombre de commerçants qui ne peuvent plus payer leur loyer, l'une des principales dépenses.
Vous ne faites pas de recettes, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Donc aujourd'hui, c'est un appel à tous les bailleurs qu'il faut lancer. Il faut annuler le mois mois de novembre, car sans activité, impossible de payer son loyer.
Alors faut-il rouvrir tous les commerces rapidement? Mais quand? Demain? Dans 15 jours? Les aides actuelles sont-elles suffisantes? Croyez-vous toujours ces propos d'Emmanuel Macron tenus au mois de mars?
Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite.
S'il n'y a pas de réouverture d'ici la fin du mois, risquez-vous de mettre la clé sous la porte? Sauvera-t-on nos commerçants quoi qu'il en coûte? Arrivez-vous à vous en sortir un minimum avec la livraison et le retrait de commandes? Avec nous en studio, François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
François Asselin qui a souri lorsqu'il a entendu Emmanuel Macron dire que aucun commerce ne sera en faillite.
Et oui, Pascal Praud, parce que lorsque le président de la République a fait cette promesse, immédiatement, ma première prise de parole a été de dire ben, on connaît comment ça se passe dans la vraie vie. Et on sait très bien que si on n'a pas d'activité, si on est fermé, si on n'a pas de chiffre d'affaires, si on n'a pas les reins assez solides pour enjamber cette période de non-activité, ben, c'est la faillite. Voilà, on ne croit pas au Père Noël, malheureusement, à si peu de temps de cette belle période de fin d'année.
Arnaud est là et vous allez pouvoir dialoguer avec lui. On va peut-être marquer une pause à l'instant. Arnaud, vous êtes avec nous ?
Oui, tout à fait.
Vous restez quelques secondes. On revient dans vraiment une poignée de minutes.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Arnaud, donc, qui est responsable d'agence intérim.
Bonjour, Pascal.
Et merci sur ce sujet des petits commerces.
Voilà, donc on avait déjà eu l'occasion en fait d'échanger ensemble, Pascal, par rapport à l'incendie Lubrizol sur Rouen, où on a fêté dernièrement le premier anniversaire. Je voulais réagir en fait par rapport au commerce. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Fabienne, où j'ai trouvé en fait son témoignage voilà très très émouvant. On le sait, hein, les commerçants en fait mettent leur vie dans leur commerce. Ce sont souvent des vocations et ils mettent aussi en péril leur famille aussi dans d'autres, dans beaucoup de cas. Le point sur lequel moi je voulais en fait intervenir, c'est que je n'en peux plus de cette notion en fait de commerce non essentiel et essentiel. Il faut se mettre à la place des commerçants où on leur dit aujourd'hui que leur commerce n'est pas essentiel. Quelle souffrance psychologique d'entendre ça. Donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que je me mets à la place en fait des élèves stagiaires alternants qui sont en train d'apprendre ces métiers de coiffeur, coiffeuse, esthéticienne et j'en passe où on leur dit aujourd'hui en fait que le métier sur lequel ils se forment ce n'est pas quelque chose d'essentiel alors même où ces jeunes qui sont généralement nés dans les années 2000 fin des années 90 ont justement besoin de beaucoup de sens dans ce qu'ils font. C'est la façon dont on les manage actuellement. Et aujourd'hui, on est en train de leur dire que les métiers sur lesquels ils se forment, c'est pas essentiel. Et ça, je trouve que c'est juste terrible. Pour notre jeunesse.
Et oui. Oui. Mais Arnaud, vous avez, François Asselin, je vous réponds, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, on l'a très mal pris, nous, entrepreneurs, parce que, vous savez, quand il s'agit de reverser la TVA, quand il s'agit de payer ses impôts, quand il s'agit d'embaucher, de recruter, de prendre des apprentis, on est essentiel à la nation. De se retrouver trié entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, c'est insupportable. Sachant que les sacrifices qu'on va demander à ces commerçants à qui on impose la fermeture sont colossaux, hein, en termes économiques bien évidemment, mais en termes même de vie personnelle. Hein, les témoignages sont pléthoriques. Hein, on sait très bien que ce sont à 90% des travailleurs non salariés, pas de recettes, pas de revenus, pas de salaire. Donc c'est la solidarité familiale qui doit jouer. Et malheureusement, si le rideau doit rester baissé, eh bien il ne reste que des dettes. Et donc il faut reconstruire sa vie. Quel enjeu, mes amis, quel enjeu ?
Mais oui, mais je veux dire, là, on sait que ça ne va pas rouvrir aujourd'hui. On imagine, et c'est des informations que vous avez peut-être, que ça va rouvrir le 1er décembre. Nous sommes d'accord.
C'est parti pour. Oui.
Bon, c'est parti pour, c'est ce que vous dites. Bon, avec un protocole qui sera sans doute renforcé.
Oui.
Bon, donc un chiffre d'affaires qui va être moindre parce que ça sera plus compliqué d'entrer dans les magasins, etc. Mais moi, je pense aux restaurateurs. Restaurateurs et bars. Quand est-ce qu'ils vont rouvrir ? Parce que c'est ni le 1er janvier, ni peut-être le 1er février, ni peut-être le 1er mars.
Alors pour les bars et les restaurants, eh bien, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il faut qu'il n'y ait aucune dépense. Sinon, ils ne pourront pas relever la tête. C'est-à-dire qu'il faut absolument exonérer tout ce qui peut être charge. Il faut trouver une solution pour les loyers. Ça, c'est impératif. Et puis, souvent, ces restaurateurs, quand ils se sont installés, ils ont investi. Parfois, ils ont racheté un fonds de commerce. Ils se sont endettés. Donc, il faut pouvoir surseoir à cet endettement. Et donc, il faudra pouvoir avoir un outil financier pour étaler les dettes le plus longtemps possible. Alors, vous avez le prêt garanti par l'État. Mmh. C'est quand même pas mal parce que c'est l'État qui se porte garant pour vous. Mais c'est les dettes.
Mais quand est-ce que les gens vont retravailler ? C'est-à-dire que les fonds de commerce, les murs, les propriétaires de ces restaurants-là.
Bien sûr, mais vous savez, le problème, c'est que pour l'instant, on essaye de tenir tout cela à bout de bras avec des trous que nous faisons dans les finances de l'État, qui à un moment ou à un autre faudra bien rembourser. L'État, c'est pas un puissant fonds, donc il faudra à un moment ou à un autre, je ne sais pas quand, mais si jamais cette pandémie perdure, continuer.
Et elle va perdurer de toute façon, elle va perdurer au moins 6 mois.
Mais d'après ce qu'on entend, le vaccin n'est pas attendu avant la fin du premier trimestre, de toute façon. Donc le temps que tout le monde soit vacciné ou immunisé, il faudra bien sûr plusieurs mois. Donc si on a encore un pic pandémique, admettons, courant du premier trimestre, est-ce que le pays aura les moyens de continuer à se confiner comme on le fait ? Nous, nous disons qu'avec des mesures renforcées en matière sanitaire, il faut pouvoir continuer à travailler.
Alexis est là. Je vous remercie Arnaud, hein, vraiment merci beaucoup de votre témoignage. Alexis est là, toujours sur ces commerces. Vous êtes jeune Alexis, vous avez 23 ans. Que pensez-vous de la solution de ce soir ? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, alors ça c'est la clim du studio. Rassurez-vous, je le dis pour Monsieur Asselin qui est le seul présent, je vais bien. Mais si on pouvait, effectivement, vous allez m'aider, j'en suis sûr, Greg Caradoni. Et on va écouter Alexis.
Avec plaisir.
Oui, bonjour. Alors moi je vous appelle parce que je ne suis pas spécialement pour une réouverture des commerces dans les 2 semaines qui vont arriver. Moi je pense qu'il faudrait mieux les ouvrir la première semaine de décembre. Pour sauver les fêtes de fin d'année, parce que pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de primordial. Nous, dans notre famille, c'est vraiment important, les fêtes de fin d'année. Et je pense qu'on se prive depuis le premier confinement à éviter de se voir, etc. Et j'aimerais qu'on nous laisse au moins une fête, quoi.
Alors, c'est François, vrai qu'il reste peu de temps d'ici les fêtes de fin d'année. Nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que plus tôt viendra l'ouverture des commerces de proximité, mieux ce sera. Alors, si c'est au 1er décembre, eh bien, il faut de toute façon impérativement qu'on puisse rester, bien sûr, qu'on puisse réouvrir le plus tôt possible. Parce que si jamais, scénario catastrophe, nous ne pouvions pas réouvrir pendant les fêtes de fin d'année, alors là, j'aime mieux vous dire que la sinistralité va monter en flèche, quoi. Déjà que ça ne va pas être brillant. Là, il n'y aurait plus de pièces à y coudre. Donc, bien sûr, il faut pouvoir réouvrir le plus tôt possible. Si c'est le 1er décembre, et je pense qu'effectivement, ce que disait un auditeur en disant il faudrait que dès le 27 novembre on puisse rouvrir, bien évidemment, parce que c'est un week-end supplémentaire avant Noël.
C'est un samedi, c'est ça, le 27 novembre ? C'est un samedi. Lorsque vous dites on s'achemine vers ça, c'est qu'aujourd'hui, qui sont vos interlocuteurs, François Asselin ?
Oh, mes interlocuteurs, c'est le ministre de l'économie, c'est Bruno Le Maire, c'est le ministre de la Santé.
Plutôt de votre côté, si j'ose dire, parce qu'il y a toujours au sein du gouvernement une opposition entre ceux qui souhaitent rouvrir et ceux qui souhaitent rester fermés.
Je pense, voyez-vous, Pascal, que le problème de fond, c'est la responsabilité de tout cela. C'est-à-dire que lorsque vous avez, vous voyez, la justice là, ouvre 4 commissions d'enquête orientées vers ceux qui ont la gestion de la pandémie. Vous avez des ministres qui ont des perquisitions. Donc il y a un risque pénal. Et ça, que voulez-vous ? C'est tout à fait humain que lorsqu'il faut prendre une décision, eh bien, quelque part, vous soyez tétanisé par le risque pénal. Donc aujourd'hui, on est dans une société où le principe de précaution se transforme en principe d'inaction. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Et on peut le comprendre. Je serais à la place du Premier ministre, à la place du ministre de la Santé. Quand vous savez que vous avez ce risque personnel, eh bien, vous hésitez à prendre certaines décisions. Et la plus facile à titre personnel, c'est de verrouiller le plus possible les mesures sanitaires pour éviter de se faire reprocher de ne pas en avoir fait assez. Donc, c'est un problème de société, au-delà d'un problème de santé. On n'est pas des sauvages, hein. On ne veut pas ouvrir n'importe comment. On sait qu'il faut bien évidemment lutter contre la dissipation, contre la diffusion de la pandémie, bien du sûr. Virus. Mais pour autant, il y a un moment où on ne pourra pas comme ça puiser sans fond dans les finances de tous les Français et de repasser aux générations montantes, eh bien, tout simplement, la crise que nous n'aurons pas réussi à traverser en matière ni sanitaire ni économique.
14h15, une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il nous reste une dizaine de minutes pour parler des petits commerces. Je vous rappelle qu'à 18h, Jean Castex annoncera les mesures qui visent ces petits commerces. Alexandra est avec nous. Bonjour Alexandra, vous êtes présidente d'une association de commerçants à Paris.
Absolument. Bonjour Monsieur Praud et bonjour à vos invités. Je vous remercie beaucoup d'avoir sélectionné mon appel.
Commerçants tous azimuts ou ciblés dans une catégorie ?
Alors écoutez, moi je suis en fermeture administrative avec toutes ces mesures. Moi j'ai un concept store de bijoux et accessoires de créateurs, donc c'est compliqué. Je fais partie malheureusement des commerces non essentiels. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et j'approuve tout à fait ce que Monsieur Asselin vient de dire. Pardonnez-moi, vient de dire, c'est un peu le trac, excusez-moi. Je sais que mes adhérents Village Fédère sont en train de m'écouter. Donc c'est très compliqué. Moi j'ai interpellé dès le vendredi du début du deuxième confinement nos députés, c'est-à-dire Monsieur Pacôme Rupin et Monsieur Pierre Person sur cette histoire déjà de commerce essentiel et non essentiel. Et aujourd'hui nous sommes, je ne vous cache pas, dans une situation très compliquée. Il n'est pas facile en un clic de mettre en place le click and collect. Alors pour ma part, par exemple, et comme d'autres, on fait du call and collect, on publie sur nos réseaux sociaux, on se débrouille, voyez. Mais c'est des petits sous, je dirais. C'est pas ça qui va combler toutes nos pertes de chiffre d'affaires qui sont considérables et qui s'ajoutent déjà aux premières pertes du premier confinement qui a duré 2 mois. Donc nous sommes très inquiets. Nous espérions une réouverture, si ce n'est cette semaine, au moins la semaine prochaine. Tout le monde n'est pas en couple avec un compagnon ou une compagne qui rapporte un deuxième salaire. Oui. C'est mon cas. Moi, je suis divorcée avec 2 enfants. Oui. Donc, premier confinement, ben, qu'est-ce que j'ai pu compter sur 2 amis très proches qui m'ont aidée, tout simplement pour pouvoir faire les courses, pour pouvoir subvenir, vous voyez, tout de suite à l'urgence. Ça, c'est la réalité. Je voudrais aussi parler de l'histoire des retraites dont une de vos éditrices a parlé tout à l'heure. Oui, nos retraites ne sont pas en relation avec ce que nous cotisons. Et je pense que M. Asselin confirmera. Je vais vous donner un exemple très très simple. Mon père a été commerçant toute sa vie. Il est retraité depuis à peu près 3-4 ans. Et il touche comme retraite 840 euros par mois. En ayant travaillé à peu près 60-70 heures par semaine et en ayant cotisé toute sa vie. Donc ça, c'est du réel, ce que je vous dis. Hein.
Alors, on va venir d'abord sur la première partie avec François Asselin. Et on voit bien que le témoignage d'Alexandra est très représentatif de beaucoup de commerçants. Qu'est-ce qu'on peut
bien
lui
sûr.
Dire
oh ben Alexandra, d'abord, je ne peux que compatir à la situation où vous vivez. Je comprends ce que ça veut dire. On a bien sûr, quand on est indépendant, beaucoup plus peur de la faillite que du Covid, c'est clair. Parce qu'on en connaît les conséquences immédiates pour soi-même, pour sa famille, pour vos enfants. Et donc la solidarité, eh bien quand la solidarité familiale est là pour subvenir, eh bien voilà, on serre les dents, on arrive à passer. Mais quand, comme vous, vous êtes seul avec vos 2 enfants, eh bien il faut avoir des amis. Et surtout, faut pas rester seul. Alors concernant les aides, quand bien même vous faites un peu de chiffre d'affaires, aujourd'hui le fonds de solidarité est cumulable avec le peu de chiffre d'affaires que vous avez fait. On a édité tout un document. Là, je l'ai avec moi, la CPME. Qui est en ligne sur le site de la CPME, où en un clic, vous pouvez accéder à toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Si jamais ça coince, si jamais en allant sur impots.gouv, etc., vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous avez droit, ce dont vous avez droit, eh bien, rapprochez-vous de votre CPME, où vous nous écrivez au national, et on fera en sorte de débloquer votre situation. On le fait partout en France. Vous avez une CPME dans chaque département, dans chaque région. On doit vous accompagner. Que vous soyez adhérent ou pas, peu importe, on doit être solidaire dans cette période-là.
Ça veut dire quoi, accompagner, concrètement ?
Accompagner, c'est-à-dire que si vous avez un dossier d'aide en cours et que vous n'arrivez pas à toucher l'argent, eh bien là, nous, on va, entre guillemets, prendre en main votre dossier et faire en sorte que vous soyez payé.
Alexandra, concrètement, vous avez un commerce de bijoux, vous avez dit.
Alors, bijoux et accessoires de créateurs vous êtes, français à 95%.
Vous êtes toute seule dans votre boutique ?
Alors, dans ma boutique, je suis toute seule. Moi, c'est ma petite chance par rapport à mes autres collègues commerçants de toute la France. C'est-à-dire que je n'ai personne à mettre en chômage partiel, je n'ai que moi.
Bon, le chiffre d'affaires, vous pouvez donner le chiffre d'affaires, par exemple, de l'année 2019
Oui, c'est à peu près 80-85 000 euros depuis. Alors attendez, ça c'est les chiffres depuis les Gilets jaunes.
D'accord, oui. Donc 85 000 euros. Donc qu'est-ce que, concrètement, avec un chiffre d'affaires de 85 000 euros sur l'année 2019, là il est à zéro votre chiffre d'affaires en ce moment.
Là il est à zéro depuis le 29 ou 30 octobre, je ne sais plus.
L'aide de l'État, c'est combien, Alexandra, pour vous?
Alors, l'aide de l'État, moi, si j'ai bien tout compris, ils vont regarder novembre 2019. Novembre 2020, il y aura eu zéro si on ne rouvre pas. Oui. Donc, ils vont me donner ce que mon chiffre d'affaires de novembre 2019 hors taxe. C'est bien cela. Ça, monsieur Asselin ?
On a
bien
exactement compris.
C'est-à-dire qu'ils vont vous donner le chiffre d'affaires.
Oui, normalement, ils vont nous le donner.
Oui. Voilà. Et quand bien même vous faites un peu de chiffre d'affaires, ça peut venir se cumuler.
Oui,
mais moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est que ça fonctionne. Et si jamais ça ne fonctionne pas, il faut absolument nous faire remonter cela pour qu'on débloque la situation. Parce qu'on nous l'a promis que ça fonctionne facilement.
Oui, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Quand Alexandra dit l'État va nous donner le chiffre d'affaires, non, l'État va donner le salaire qui était en fonction de la vente du chiffre d'affaires.
Non.
Vous allez faire un chèque de 30 000 ou 40 000 euros.
Pour moi, mais l'État, si vous voulez, si vous aviez un chiffre d'affaires qui est équivalent par exemple à peu près à 7 000 euros par mois de chiffre d'affaires en 2019, et bien cette année, au mois de novembre, si vous avez fait zéro ou même si vous avez fait 1 500, et bien l'État va vous donner le complément de chiffre d'affaires.
C'est ça.
Voilà.
Donc, c'est vrai pour tous les commerces.
C'est vrai pour tous les commerces, excepté, et c'est là la grosse difficulté, vous avez certains commerçants qui ont, par exemple, plusieurs boutiques.
Oui. Hein,
et donc, on met une société holding, qui est propriétaire de plusieurs
bien
boutiques.
Sûr.
Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaye techniquement de faire sauter ce verrou, parce que finalement, vous avez des belles PME qui vont péricliter, parce que tout simplement, la structure juridique ne correspond pas
aux aides. Mais le salon de coiffure qui fait un chiffre d'affaires en 2019, l'État va lui donner l'équivalent au mois de novembre du chiffre d'affaires de 2019.
Complètement. La difficulté...
C'est des sommes qui vont être considérables.
Mais bien sûr, c'est pour ça, je vous dis, Pascal. On ne va pas pouvoir durer comme cela pendant des mois. Il va falloir, à un moment ou à un autre, apprendre à travailler.
Donc les commerçants, ils perdent rien pour le moment.
Ça dépend des commerçants. Ça dépend parce que les dettes que vous avez accumulées, Alexandra, là, personne ne vient en secours.
C'est ça, on est d'accord. C'est ce que je voulais dire. Il y a l'histoire des dettes et après, il y a aussi l'histoire de l'inconnu. C'est-à-dire que, supposons que nous rouvrions, je ne sais pas, le 25-20 novembre ou début décembre, les gens, en tout cas depuis l'annonce du deuxième confinement, se sont organisés aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont reporté leurs achats d'une façon ou d'une autre, qui par exemple vont se diriger sur les plateformes. Il y a, pour ne pas les citer, les grosses plateformes. Ensuite, il y a les gens qui ne vont pas fêter Noël cette année. Il y a aussi les personnes qui vont attendre les soldes. Donc nous, si vous voulez, c'est une réaction en chaîne. Moi, par exemple, là, je ne peux pas payer mes créateurs, qui, eux, ne vont pas pouvoir payer leurs fournisseurs de matières premières.
Et bien sûr.
Etc. Voilà. Ce sont des réactions en chaîne. C'est très facile à comprendre.
Mais complètement. Et vous avez d'autres secteurs, par exemple, comme l'habillement, qui ont stocké leurs collections d'hiver. Si jamais ils ne la vendent pas, il faut qu'ils payent leurs fournisseurs en ce moment. Ça va être une réaction en chaîne complètement cataclysmique.
Voilà. Bien sûr.
Donc,
bien
évidemment, on ne peut pas demander non plus à l'État de payer vos stocks, de payer vos loyers. On est pragmatique, on sait très bien qu'à un moment, ce n'est pas possible. Mais pour autant, il faut avoir deux mesures. D'abord, quand on est fermé administrativement, il faut éviter que, il y ait, comme il y a zéro chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait zéro dépense, zéro coût pour l'indépendant, pour son commerce, pour son entreprise. Et deuxièmement, s'il y a des dettes cumulées, il faut avoir un système qui permet d'étaler sur une longue période l'ensemble de ces dettes. Les loyers que vous n'avez pas pu payer parce que vous étiez fermé. Et puis, il y a aussi un autre élément très important, vous l'avez souligné Alexandra, c'est que si votre niveau d'activité ne revient pas à ce qu'il était auparavant et que vous enlève les aides, vous allez malheureusement devoir déposer le bilan.
C'est ça.
Donc il faut que les aides perdurent.
Absolument. Décembre est un gros mois, novembre aussi en principe.
Elles ne peuvent pas perdurer jusqu'à la nuit des temps.
C'est-à-dire qu'à un moment où elles s'arrêteront, où on va, entre guillemets, déconnecter certaines activités de ces soutiens, ça sera malheureusement, pour certains d'entre nous, le dépôt de bilan.
Mais l'aide pour Alexandra, c'est l'aide pour les restaurateurs également.
C'est l'aide pour les restaurateurs.
Donc on donne tout le chiffre d'affaires à un restaurateur.
Pas tout le chiffre d'affaires, parce que vous avez des restaurateurs.
Il n'y a même pas de plafond.
Si, c'est 10 000 euros. C'est-à-dire que 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais vous avez par exemple
c'est
des magasins.
C'est plafonné à 10 000 euros.
Bien sûr, vous avez des magasins ou des restaurateurs qui font jusqu'à 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc eux, de toute façon, ça va être catastrophique.
C'est catastrophique pour eux, mais on est d'accord que c'est plafonné. Tout un restaurateur,
bien évidemment,
par exemple, un grand restaurant à Paris, une grande brasserie à Paris, par exemple, comme La Coupole, qui fait 800 couverts, je crois, qui doit être le plus grand resto à Paris, 800 couverts par jour, vous ne lui payez pas entièrement son chiffre d'affaires de 2019.
Non, c'est impossible, c'est plafonné à 10 000 euros.
Oui, non, mais ça, c'est très, très important de dire que c'est plafonné à 10 000 euros. Merci, monsieur Asselin, vous êtes formidable.
Merci, je vous en prie.
Mais si, c'est vrai, de pédagogie, de clarté, c'est toujours un plaisir de vous avoir à ce micro. L'ami Tessier pour le verdict et Flavie Flamand ensuite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.